locataires ou propriétaires, protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Véritable chef d'orchestre de l'organisme, la thyroïde est une petite glande en forme de papillon située à la base du cou. Température corporelle, rythme cardiaque, système nerveux, fonctionnement des muscles, digestion ou désir sexuel, la thyroïde régule toutes les fonctions vitales grâce aux hormones qu'elle sécrète et synthétise. Et quand elle se dérègle, c'est tout l'équilibre du métabolisme qui est modifié. Altération de l'humeur, du poids ou de l'état de fatigue. Environ aujourd'hui 200 millions de personnes dans le monde souffrent d'une forme de maladie thyroïdienne. Parfois héréditaire, les problèmes de thyroïde touchent 5 fois plus les femmes que les hommes. Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, nodules, kystes, cancer de la thyroïde, des pathologies qui peuvent avoir un impact important en termes de qualité de vie. Alors comment reconnaître les signes d'un dérèglement thyroïdien? Quelles en sont les causes? Peut-on vivre sans thyroïde et sans ses hormones? Quand est-ce qu'un geste chirurgical est-il nécessaire? Tour d'horizon aujourd'hui dans Priorité Santé, où nous allons donc parler diagnostic, symptômes de ces troubles et pathologies, et bien sûr évoquer les traitements et les prises en charge proposées selon les régions du monde. Maladie de la thyroïde, pour en parler en studio avec nous aujourd'hui, docteur Dominique Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de diabétologie, endocrinologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, créateur du centre de la thyroïde à Saint-Joseph, et vous êtes également membre du conseil d'administration de l'association le CAICEDRA, une ONG au Sénégal oriental. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Sénégal le professeur Abdoulaye Ley, chef du service d'endocrinologie, diabétologie au centre hospitalier national universitaire de Pikine, dans la banlieue de Dakar. Et en fin d'émission, la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe de France de judo. Et si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Dominique Huette, pour commencer, si vous le voulez bien, une leçon d'anatomie avant de parler des troubles et des pathologies de la thyroïde. Où se trouve cette glande et à quoi elle sert?
Alors cette glande, qui est une toute petite glande, la thyroïde, ça fait à peine 30 grammes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle a la forme d'un papillon avec deux ailes et puis un corps et se situe plaquée sur la trachée entre...
La pomme d'Adam
et le sternum en bas. Alors habituellement, lorsqu'elle est de taille normale, on ne la palpe pas. On le palpera que s'il y a une augmentation pathologique, et toute augmentation va s'appeler goitre. Et donc cette petite glande a une fonction indispensable à la vie, c'est la fabrication des hormones thyroïdiennes, qui vont donc réguler tout le métabolisme du corps humain, passant par le cerveau, par la peau, par le rythme cardiaque, par le transit et bien d'autres choses encore. Et dès l'instant où on a une perturbation, soit dans le sens de la diminution de fabrication, à ce moment-là, tout le métabolisme va marcher au ralenti. Et on ne le voit plus maintenant parce que les gens sont traités, mais il y a une centaine d'années, on finissait très lentement, lorsqu'on n'avait plus d'hormones thyroïdiennes, vers le coma, comme une bougie qui s'éteint très progressivement. Et puis de l'autre côté, à l'inverse, il y a l'hyperthyroïdie, l'excès d'hormones thyroïdiennes, qui va conduire à un excès du métabolisme, où toutes les fonctions sont accélérées et peuvent être particulièrement dangereuses quand il s'agit du cœur, par exemple.
Alors, docteur Dominique Huette, les pathologies de la thyroïde, on l'a dit, atteignent plus les femmes que les hommes. Au Congo-Kinshasa, par exemple, 75% des femmes sont exposées aux problèmes de thyroïde. Alors, pourquoi les femmes sont-elles plus touchées?
Alors, on n'a pas une hypothèse vraiment démontrée. On sait qu'il y a forcément un rôle des hormones sexuelles, puisqu'on voit qu'on a des pathologies qui apparaissent à différents moments de la vie sexuelle de la femme. Par exemple, pendant la grossesse, on a une recrudescence de la poussée des nodules. On a également une recrudescence des maladies auto-immunes et l'hypothyroïdie fait partie de ces maladies auto-immunes, et également au moment de la ménopause. Mais au moment de la ménopause, je crois qu'il y a surtout un meilleur dépistage de ces formes un petit peu qui passent inaperçues souvent. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc comme fréquence la femme, donc 7 femmes pour 3 hommes environ, et en particulier aux périodes d'activité génitale importante comme les grossesses ou la ménopause.
Il y a un pic d'incidence effectivement aux épisodes de la vie des femmes où en fait les hormones sont bousculées.
Tout à fait, oui.
Est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres ?
Alors les personnes à risque, c'est les personnes qui ont dans leur famille des antécédents de pathologie thyroïdienne. Alors on ne peut pas parler aujourd'hui de maladie héréditaire stricto sensu, puisqu'il n'y a pas une transmission, on va dire mathématique, comme selon les lois de Mendel, mais il y a une petite note héréditaire. Ça veut dire que quand dans sa famille on a eu une pathologie de la thyroïde, quelle qu'elle soit, on peut avoir eu une hyperthyroïdie, on peut avoir eu un nodule, on a un risque accru de développer une maladie de la thyroïde, et donc on sera enclin à demander un dépistage beaucoup plus facilement que les gens qui n'ont pas d'antécédents familiaux.
Et notamment, on vient de le dire, les femmes de plus de 50 ans en ménopause ou les femmes qui ont accouché au cours de l'année, par exemple. Alors, on vient d'évoquer quelques grandes causes donc du dérèglement ou de maladie de la thyroïde. On peut citer donc le vieillissement, le surpoids, les antécédents familiaux. Il y a également un facteur important, c'est l'alimentation, qui joue un rôle essentiel dans les problèmes de thyroïde à cause des carences ou des excès en iode.
Alors, bien évidemment, vous savez que les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à partir d'iode, et l'iode, donc, est apporté par l'alimentation. Alors, ces problèmes sont réglés à l'heure actuelle en Europe, puisqu'on a une alimentation relativement équilibrée, ce qui permet d'avoir un apport, et de plus, on a une substitution, un rajout d'iode dans les sels alimentaires.
Et donc, dans les produits industriels, notamment.
Oui, mais dans le sel de cuisson, le sel, on a un rajout d'iode, ce qui fait qu'ont disparu en Europe les grandes hypothyroïdies ou les goitres qu'on pouvait voir au 19e siècle, par exemple.
Pour bien expliquer, l'iode, c'est un oligo-élément, comme le fer ou le magnésium, donc on trouve dans l'alimentation.
Oui, alors on le trouve d'abord dans les produits marins, dans les poissons, dans les algues, mais on en trouve également dans du soja, on en trouve dans beaucoup d'aliments.
Alors, docteur Dominique Huette, quels sont les symptômes de ces dysfonctionnements ? Et est-ce qu'il y a des symptômes communs à l'ensemble des maladies de la thyroïde ?
Alors, il y a des symptômes communs, bien évidemment, qui sont non spécifiques. On peut avoir, par exemple, une grande fatigue. Alors, vous savez que la fatigue, il n'y a rien de moins spécifique que la fatigue. Si vous me demandez aujourd'hui si je suis fatigué, je vais vous dire oui, mais on ne va pas forcément penser à la maladie de la thyroïde tout de suite. Symptôme banal. Néanmoins, il y a des symptômes qui sont quand même très discriminants. Par exemple, le poids. On sait que si vous perdez brutalement 5-10 kilos et que vous avez en même temps une accélération de votre rythme cardiaque, il faut tout de suite évoquer l'excès d'hormones, l'hyperthyroïdie. Alors que si vous avez une prise de poids importante et que le cœur se ralentit, que vous êtes constipé, là on recherchera une hypothyroïdie. Donc vous voyez qu'il y a des symptômes qui sont relativement plus spécifiques que d'autres.
On parle aussi de troubles de l'humeur, troubles du sommeil, troubles de la mémoire ou de la concentration.
Tout à fait, puisque comme je vous disais au début, les hormones thyroïdiennes règlent tout le métabolisme, y compris le métabolisme cérébral. Donc quand on est en excès de métabolisme, on va avoir une insomnie, puisqu'on va être très excité. Et à l'inverse, lorsqu'on est en hypothyroïdie, on a une tendance à dormir tout le temps, avoir une dépression qui va apparaître. Ou lorsqu'on est déprimé, on sait que les antidépresseurs vont bien moins agir lorsque vous êtes en hypothyroïdie.
Alors vous avez commencé à en parler, les différentes atteintes et conséquences des dysfonctionnements de la thyroïde. Tout d'abord, les goitres et les nodules. On parle souvent de catégories de nodules. De quoi il s'agit ?
Alors, nous avons vu un petit peu, même rapidement, les désordres de fabrication d'hormones, mais il y a également un autre point de vue qui est un point de vue d'architecture, puisque la glande est composée de cellules. Il va y avoir la possibilité d'existence de nodules, qui sont donc des formations anarchiques qui se développent. Et ces nodules peuvent être uniques ou multiples. Et dans ce cas-là, lorsque la glande devient un peu trop grosse, on commence par parler de goitre. Alors le goitre, c'est uniquement une augmentation de volume.
De la thyroïde.
De la thyroïde, au sein de laquelle on peut avoir des nodules. À ce moment-là, on parle de goitre nodulaire. Alors ces nodules, c'est des boules.
Oui, qui sont caractérisées par un gonflement du cou, en fait.
Un gonflement du cou. On le voit particulièrement lorsque les gens vont respirer, puisqu'on voit le nodule qui va descendre et remonter. Mais c'est déjà lorsqu'on a des nodules de taille assez importante. Alors ces nodules peuvent être remplis de cellules, c'est des nodules pleins, ou bien ils peuvent être remplis de liquide, et ça s'appelle des kystes. Le problème des nodules, qui est un problème ultra fréquent, il faut savoir qu'après 50 ans, il y a 30 à 40% de la population, en particulier féminine, qui présente des nodules. Mais tous ne sont pas du tout inquiétants.
Qui sont souvent indolores et sans symptômes, asymptomatiques.
Totalement indolores et qui n'entraînent pas un hyperfonctionnement ou un hypofonctionnement de la thyroïde. Néanmoins, certains vont nécessiter une attention plus particulière en fonction des examens qu'on va faire, en particulier l'échographie. Et dans certains cas précis, on pourra conduire à faire une cytoponction pour aller éliminer la possibilité d'un éventuel cancer.
Alors justement, lorsque ces différents symptômes apparaissent, à quel type d'examen on doit procéder ?
Alors, il y a un examen d'abord clinique, en sachant que on va palper le cou pour voir si on a des nodules. On va regarder l'aspect de la peau, le rythme cardiaque, mais surtout, un examen va être prédominant, c'est le dosage de la TSH. Alors la TSH, ça veut dire en anglais hormone stimulant la thyroïde, c'est le régulateur de la fabrication des hormones. Elle est faite au niveau de l'hypophyse et elle est déclenchée par le taux d'hormones circulant dans le sang. En d'autres termes, lorsque vous manquez d'hormones circulantes dans le sang, c'est-à-dire que vous êtes en hypothyroïdie, l'hypophyse va demander à la thyroïde de travailler plus, va la stimuler, et donc la TSH augmente. À l'inverse, lorsque vous avez trop d'hormones circulantes dans le sang, l'hypophyse va demander à la thyroïde de s'arrêter de travailler pour réguler tout ça, et la TSH est basse. Donc, simplement pour nos auditeurs, la TSH va être inversement proportionnelle, c'est-à-dire plus elle est élevée, plus on manque d'hormones thyroïdiennes.
Donc il s'agit d'un bilan sanguin pour contrôler le taux d'hormones. Tout de suite, vous restez avec nous, docteur Dominique Huette, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et tout d'abord, la parole à Sekou qui nous appelle du Mali. Bonjour Sekou.
Bonjour Caroline.
Raphaël. On vous écoute.
Désolé.
Non, ne vous inquiétez pas, on vous écoute.
C'est vrai, je souffre de cette maladie-là à peu près, je peux dire bientôt 3 ans. Parce que quand la maladie m'a attrapé, j'avais vraiment du mal à distinguer quel genre de maladie était-elle. Et quand je partais dans les cliniques, dans les hôpitaux, comme vous le savez, j'ai commencé à maigrir et voilà, j'avais même eu peur. Je me suis dit que peut-être c'est une autre maladie qui m'a attrapé, que je ne me suis pas rendu compte.
Et alors donc, finalement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on vous a diagnostiqué?
Oui, je vais en venir. Excusez, je vais en venir. Donc, quand j'avais commencé à perdre du poids, vraiment, j'avais commencé à avoir peur. Donc, c'est là qu'une fois, je me suis rendu dans un clinique. C'est ce médecin qui m'a regardé et me dit, tout de suite, le médecin m'a dit, et voilà, moi, je pense que vous avez un peu la maladie de la goitre. Donc, je préfère que vous partez voir un spécialiste de ça. Donc, pour faire vos examens et voir le résultat. Donc, c'est dès lors que je suis allé voir le docteur, et voilà, tout de suite, le résultat est apparu et on m'a dit que je suis attrapé de cette maladie.
D'accord. Et quelle est votre question, finalement, Sekou, pour le docteur
Dominique Huette? Ma question, maintenant, est de savoir quels sont les aliments qu'il faut consommer pour se débarrasser de cette maladie et comment guérir cette maladie rapidement.
Comment est-ce qu'on peut guérir d'un goitre, en fait?
Voilà.
Merci pour votre question, docteur Dominique Huette. Je me tourne vers vous.
Alors, il est toujours un petit peu compliqué de faire un diagnostic à distance sans avoir tous les examens. Néanmoins, Sekou nous annonce bien qu'il a d'abord perdu du poids, ce qui l'a inquiété. Donc, il avait donc une hyperthyroïdie qui est survenue sur un goitre. Et donc, il faut traiter cette hyperthyroïdie. Alors, il y a deux moyens. Il y a un traitement médical qui marche dans 60 à 80% des cas. Sinon, il y a une rechute qui apparaît et on peut être amené à proposer un traitement plus radical qui serait l'ablation de la thyroïde. Les aliments ne vont pas agir beaucoup sur la guérison ou pas de votre maladie, cher monsieur. Votre maladie, habituellement, est due au, entre guillemets, pas de chance. C'est souvent des anticorps, donc une maladie auto-immune, et vous allez avoir des anticorps qui vont aller stimuler votre thyroïde, ce qui va donner un excès d'hormones, l'hyperthyroïdie. Mais après un traitement de 18 mois à 24 mois, on arrive généralement à traiter correctement cette maladie.
Alors justement, vous parlez des traitements, docteur Dominique Huette. Dans quel cas un traitement est recommandé et généralement de quel type de traitement il s'agit?
Alors lorsque là, nous sommes dans les hyperthyroïdies. On propose des médicaments qui sont appelés des antithyroïdiens de synthèse, c'est-à-dire qui vont aller stopper la fabrication d'hormones thyroïdiennes et également avoir une action sur ces fameux anticorps stimulants. Et il faut environ 18 mois de traitement pour totalement rétablir une situation normale. C'est des médicaments qui existent depuis une quarantaine d'années, qui sont bien supportés, qui sont peu onéreux et qui permettent, donc je vous dis, dans 70% des cas, de guérir cette hyperthyroïdie.
Et assez disponible à l'international?
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup Sekou pour votre question. On vous souhaite une bonne journée au Mali. Et on passe le micro de Priorité Santé à Lily qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Bonjour Lily.
Oui, bonjour Raphaël, Constant.
Bonjour, on vous écoute.
J'ai souffert de la maladie de Basedow pendant 2 ans. Actuellement, je suis en rémission. Ma question, c'est de savoir, y a-t-il de risque de récidive pendant la grossesse pour mon cas, parce que je suis en rémission. La deuxième, est-ce que le meilleur traitement reste l'ablation de la thyroïde? Et la troisième question, quels sont les inconvénients de la chirurgie?
Lily, vous êtes actuellement enceinte?
Non, actuellement non. Si je pose cette question liée à la grossesse, parce que j'ai perdu un bébé pendant le traitement.
D'accord, donc vous étiez sous traitement au moment de la grossesse et finalement vous avez perdu votre enfant pendant la grossesse ou après sa naissance?
Non, non. Après la naissance, sur 4e jour de la naissance, de sa naissance en fait.
Merci beaucoup pour votre témoignage et votre question, Lily. Docteur Dominique Huette, la question Lily est un cas un peu particulier, c'est celui de la grossesse et des maladies de la thyroïde. Il y a donc des femmes qui connaissent des dérèglements thyroïdiens uniquement pendant la grossesse. Pourquoi ?
Toujours le fait de la grossesse qui va stimuler notre système immunitaire et donc ces pathologies auto-immunes, il y en a de nombreuses, mais en particulier l'hyperthyroïdie, la maladie de Basedow, comme nous a dit Lily, va être impulsée par cette grossesse. Mais parfois, les femmes sont en hyperthyroïdie juste avant la grossesse. Et donc, ça pose le problème très délicat de comment prendre en charge cette hyperthyroïdie pendant la grossesse. Alors, on est bien évidemment très attristé de ce qui vous est arrivé, mais là, c'est parce que c'est très compliqué de gérer. Les médicaments dont on a parlé tout à l'heure, les antithyroïdiens de synthèse, certains ne sont pas indiqués pendant la grossesse, donc on est obligé d'en choisir une certaine catégorie. Et bien souvent, bon nombre de médecins demandent une interruption médicale de grossesse au tout début pour être relativement plus tranquille et à l'abri des examens, des risques. Néanmoins, il est possible, sous une couverture très précise, très fréquente de l'État, de mener une grossesse sous certains antithyroïdiens de synthèse. La question que pose madame est très importante maintenant, c'est son inquiétude à dire je veux avoir un nouveau bébé, qu'est-ce que je fais ? Alors bien souvent, on propose une ablation de la thyroïde pour éviter justement une deuxième rechute au moment de la grossesse et donc une difficulté à mener cette grossesse pour la femme et pour son bébé correctement.
C'était une de vos questions, Lily. Vous demandiez si l'ablation de la thyroïde était la seule possibilité, en fait. Allô, Lily ? Non, Lily n'est plus avec
la
nous.
Deuxième question.
Ah, oui, vous êtes revenu. Vous êtes revenu.
Dites-moi. Je vous écoute.
Ben, la deuxième question que vous posiez, si je me souviens bien, c'était les conséquences de l'ablation de la thyroïde si elle était discutée dans votre cas précis. Alors, lorsqu'on enlève la totalité de la thyroïde, parce que dans votre cas d'une maladie de basse d'eau, il faut enlever la totalité de la thyroïde, parce que si on vous laissait un petit bout de thyroïde, la maladie basse d'eau pourrait revenir sur le petit fragment qui reste. Donc on est obligé, dans votre cas, d'enlever la totalité de la thyroïde. Alors ça a comme conséquence d'avoir la nécessité d'un traitement à vie, qu'on appelle substitutif à l'aide du lévothyrox ensuite, mais qui permet de mener une vie normale, d'avoir là pour le coup des grossesses normales sous traitement, lévothyrox. Les inconvénients de la chirurgie, c'est qu'il y a deux complications importantes. C'est d'abord, lorsqu'on enlève la thyroïde, et c'est pourquoi il faut avoir des chirurgiens qui soient spécialisés dans cela, nous avons quatre petites glandes qui sont aux quatre coins de nos ailes de papillon, qui s'appellent les glandes parathyroïdes, qui vont régler le métabolisme du calcium et des os, qui peuvent être, on va dire, enlevés par erreur. Et là, on est aussi obligé de prendre un traitement de vitamines, de calcium toute sa vie. Et la deuxième complication, c'est de blesser le nerf qui innerve les cordes vocales, qui passe très près de la thyroïde, qui s'appelle le nerf récurrent. Et dans ce cas-là, on peut avoir au minimum une modification de sa voix, voire perdre la voix. Alors bien évidemment, lorsque c'est fait par des équipes très expérimentées, c'est très rare, c'est-à-dire c'est moins d'un pour mille observations. Mais néanmoins, c'est le risque qui existe.
Merci Lily pour toutes ces interrogations, j'espère qu'on y a répondu. Je vais donner la parole maintenant à Malango qui nous appelle d'Afrique du Sud. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Raphaël.
Bonjour Malango, on vous écoute.
Bonjour.
Moi, je constatais d'abord l'augmentation de mon poids et puis j'avais des douleurs articulaires. Et après, l'oreille gauche, je n'écoute pas avec l'oreille gauche. Et c'est ma l'oreille droite qui travaille très bien. Parfois aussi, je tremble comme manque d'énergie. Je suis allée voir le médecin. Le médecin a dit qu'il faut faire d'abord le test. J'ai tout fait le test. Ils ont dit que le test était négatif. Et je suis rentrée à la maison. Ils m'ont donné seulement le pain qu'il a, les calmants et tout ce qu'on m'a donné. Quand je suis rentrée, j'ai encore appelé le médecin. Le médecin a dit que je dois rentrer après 3 mois pour faire les examens. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que j'ai réellement les thyroïdes ou bien j'ai une autre maladie?
En fait, Malango voulait savoir si vous êtes plutôt atteinte d'hypo ou d'hyperthyroïdie, c'est ça?
Oui.
Alors, c'est toujours un problème très fréquent qui est d'essayer d'attribuer des signes à une maladie particulière. Alors, on a vu ensemble tout à l'heure qu'il y avait des signes qui étaient peu spécifiques. La prise de poids, on peut prendre du poids pour des tas de raisons, la frilosité, etc., etc. Et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire un dosage hormonal, encore une fois la TSH. Et si ce dosage est normal, on élimine formellement toute maladie de la thyroïde. Et c'est pourquoi médecins vous ont laissé repartir sans aucun traitement de la thyroïde. Donc je pense que raisonnablement, il faut envisager de chercher une autre pathologie, mais on a éliminé toute pathologie de la thyroïde et à l'instant où votre TSH est normal.
Est-ce qu'on a répondu à votre question, Malango?
Oui, alors je n'ai pas bien écouté, je dois aller chercher un autre docteur ou bien quoi?
Oui, je crois qu'il faut que vous revoyiez votre médecin généraliste pour qu'il...
Ou un autre, changer si vous ne vous sentez pas en confiance avec celui-ci.
Oui, mais encore une fois, on a le laboratoire, on a le dosage, on peut soi-même regarder les normes. Si votre taux de TSH est dans la norme, à ce moment-là, on est absolument certain que vous n'avez pas de maladie de la thyroïde. Et il faut effectivement en reparler avec votre médecin généraliste pour vous orienter vers d'autres pathologies.
Merci beaucoup pour votre appel, Malango, et on vous souhaite une belle journée en Afrique du Sud. Et merci à tous pour vos appels, vos messages et vos témoignages. Docteur Dominique Huette, quand on évoque les maladies de la thyroïde et ses traitements, impossible de ne pas aborder ce qui a constitué un thème majeur de l'actualité sanitaire ces dernières années. Je parle du changement de formule du lévothyrox.
Tout à fait. Alors, on a l'impression que les choses se tassent un petit peu, même s'il y a encore un nombre non négligeable de patients qui restent avec quelques troubles. Alors, simplement pour rappeler les faits, il y a eu une demande de la Haute Autorité de Santé pour modifier la formulation du lévothyrox afin d'obtenir une formule qui soit la plus stable possible pour proposer une substitution hormonale la plus précise possible. Et pour cela, on a modifié un excipient qui était un sucre, le lactose. On l'a remplacé par du mannitol, qui est d'ailleurs dans la composition de bien d'autres médicaments. Et là, on a eu d'un seul coup une avalanche de plaintes de patients justifiés qui étaient d'ailleurs alors multisymptomatiques. C'est pour ça qu'il sera toujours très difficile d'essayer de faire la part des choses, parce que quand on a un effet indésirable, un seul, on va pouvoir travailler sur sa cause, la recherche. Quand on a 25 symptômes, ça devient très difficile. Alors, on sait aujourd'hui que les gens, pour la majorité des gens, ces symptômes ont disparu au fil du temps. Certains sont accrochés à avoir la formulation ancienne, puisqu'elle existait encore en Europe. Alors, ici, ça... Il y avait en plus une notion quand même d'angoisse, parce que lorsque vous devez prendre un médicament toute votre vie et qu'on vous donne un médicament qui vous donne des troubles, vous êtes inquiet. Alors, la première chose qui a été rappelée, c'était surtout ne pas arrêter le traitement, de voir son médecin pour voir s'il y avait une autre possibilité de traitement, et à ce moment-là, on leur a proposé d'autres formulations. Alors, il faut savoir que d'autres études ont été poussées. On n'a pas retrouvé de choses particulières, si bien qu'en Europe, maintenant, l'ancienne formule va être tirée et il n'y aura plus en Europe que la nouvelle formulation. La Suisse l'a déjà adoptée il y a un an et demi. On n'a pas eu de retour particulier et toute l'Europe va avoir cette nouvelle formulation plus précise dans le dosage.
Alors justement, à ce titre, il y a une étude publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament qui a conclu en juin 2019 à l'absence de toxicité propre, justement, du médicament reformulé, tout en soulignant néanmoins une nette augmentation des recours aux soins ambulatoires.
Tout à fait. C'est une constatation. Il y a d'un côté la recherche de causalité à ces symptômes. On n'en a pas trouvé. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas formellement. C'est pour ça que les débats et que vous avez aussi d'autres recherches où on a trouvé des nanoparticules de métaux lourds qui pourraient entrer en compte. Ça n'a pas été vérifié dans d'autres études. Mais l'agence a constaté une augmentation des consultations pour effet indésirable, ça c'est certain.
Et vous, en consultation, docteur Dominique Huette, est-ce que vous avez constaté que cette crise a entamé la relation de confiance entre les patients et les médecins?
C'est difficile de généraliser. Moi, dans ma pratique courante, j'essaye d'avoir un contact le meilleur possible avec mon patient. On a discuté dans peu de nombre de cas, moins de 10% de mes patients ont présenté ces symptômes. Nous en avons parlé et nous avons bien évidemment trouvé une solution pour éviter l'arrêt intempestif, parce que il y a des pathologies où on peut éventuellement l'arrêter. Il y en a d'autres, quand on a enlevé la thyroïde, par exemple, c'est vital. Il n'est pas question de rester sans hormones thyroïdiennes.
Oui, parce qu'on peut vivre sans la thyroïde, mais pas sans les hormones qu'elle sécrète.
Sans les hormones. Donc, il fallait garder, le contact, le bon contact. Et c'est l'intérêt et la nécessité d'une bonne relation médecin-patient. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de garder confiance. Alors c'est vrai qu'il y avait un flot d'informations en particulier amené par l'Internet qui pouvait modifier le message, mais nous sommes là pour essayer de rapporter une information la plus objective possible.
Et alors est-ce que vous voyez des patients ou des patientes qui ne veulent pas être traités ? Pas du tout.
C'est difficile à dire. Je recherche parce que c'est exceptionnel. On a plus de gens qui souhaitent ne pas se faire opérer de la thyroïde pour ne pas avoir à prendre le traitement. Alors, lorsque c'est pas totalement indispensable, on essaye de tenir le coup entre guillemets et de les maintenir. Et puis
et de proposer des traitements alternatifs.
Pardon ?
De proposer des traitements alternatifs ?
Alors, quand on a un traitement alternatif, oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous avez un énorme nodule qui grossit, eh bien, les gens sont parfois réticents. Alors, il faut savoir attendre. Moi, je sais qu'avec mes patients, parfois, ils me refusent. Et puis, 2 ans après, ils finissent par accepter et on les opère.
Vous restez avec nous, docteur Dominique Huet. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Et on retrouve le professeur Abdoulaye Ley, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de service d'endocrinologie diabétologie au Centre Hospitalier National Universitaire de Pikine dans la banlieue de Dakar. Professeur Ley, combien d'endocrinologues compte le Sénégal aujourd'hui ?
Alors, bonjour chers collègues de Huyette. Combien d'endocrinologues ? Bon, on va dire 5.
Combien ?
5 dans le sens de personnes formées, diplômées pour prendre en charge les endocrinopathies. Cependant, tous les internistes sont à mesure de prendre en charge les endocrinopathies et dans ce cadre-là, on est plus nombreux.
Et quelles sont les maladies de la thyroïde que vous voyez le plus en Afrique subsaharienne ?
Ce sont les hyperthyroïdies et les goîtres nodulaires. Certains goîtres nodulaires, naturellement, pouvant être en hyperthyroïdie. Mais véritablement, la plus grande fréquence de pathologies thyroïdiennes, ce sont les hyperthyroïdies et puis les goîtres en thyroïdie.
Est-ce qu'il y a des zones au Sénégal qui sont particulièrement concernées ?
Pour ce qui concerne le goître, la notion de goître endémique qui a posé problème pendant très longtemps et qui était liée au déficit en iode était retrouvée au Sénégal oriental, qui sont des zones avec des zones montagneuses où le déficit en iode était assez marqué. Et où donc la notion de goître endémique peut dire que pratiquement 80-90% de la population avait une augmentation de volume de la thyroïde, donc le goître. Mais ceci a été réglé avec la politique de d'iodation du sel qui est utilisée dans la population générale pour la consommation journalière.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire 3 mots ?
La thyroïde a besoin pour faire l'hormone, comme l'a expliqué probablement auparavant mon collègue Dr Huet, a besoin d'iode pour fabriquer les hormones. Donc du coup, quand on est dans une zone où il manque de l'iode, la glande thyroïde, par exemple, a besoin de travail beaucoup plus pour capter beaucoup d'iode. Et on peut peut-être considérer, juste par analogie, que cet effort-là de capter l'iode, de travailler beaucoup pour faire des hormones, va faire que ça va s'hypertrophier. Et dire qu'il y a le goître, c'est l'augmentation du volume. Le caractère endémique, c'est que dans cette zone, un bon pourcentage de la population, pratiquement en général 70% ou 80%, présente une augmentation de volume de la thyroïde. Et donc, puisque le problème est lié à un déficit en iode, en termes de santé publique, la prévention ou la solution pour que cette prévalence du goitre endémique régresse, c'était d'iodé le sel, puisque le sel est utilisé tous les jours. Et c'est ça qui est fait depuis des décennies et on est en passe d'éradiquer ce fléau.
Et est-ce qu'en ce qui concerne le cancer de la thyroïde, est-ce qu'il y a beaucoup de cas au Sénégal?
Nous n'avons pas de données chiffrées pour dire beaucoup et dans la pratique de tous les jours, on ne peut pas dire qu'on en voit beaucoup. Par contre, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que toutes les thyroïdes qui sont opérées ou tous les goitres nodulaires qui sont opérées, on ne va pas jusqu'au bout de l'exploration, en particulier anatomopathologique, qui est le seul examen pour nous dire qu'il y a un cancer ou pas. Et ceci, c'est lié essentiellement à des problèmes de moyens financiers ou de disponibilité de cet examen anatomopathologique. Donc, dire que c'est pas fréquent, ce serait peut-être juste de façade, mais la réalité pourrait être tout autre, puisque toutes les pièces anatomopathologiques ne sont pas examinées.
Et est-ce que les patients viennent facilement consulter à l'apparition des premiers symptômes?
Ah non, sûrement pas. Il y a une réalité chez nous qui fait que il y a la médecine traditionnelle, il y a les charlatans, il y a les conseils des parents qui font qu'au premier symptôme, les patients ne consultent pas toujours. Ceci dit, tous les symptômes vous avez vu que les signes d'hyper ou d'hypothyroïdie sont très disparates, c'est divers, peu spécifiques, et donc c'est pas tout le temps que l'on pense à la thyroïde. Et donc ça fait qu'il y a un retard diagnostic. Néanmoins, une fois que l'orientation, la suspicion est faite et que les patients sont orientés en structure spécialisée, eh bien la prise en charge peut se faire à peu près correctement.
Est-ce qu'il y a des campagnes de prévention autour du dépistage, par exemple?
Non, il ne s'agit pas, à vrai dire, d'un problème de santé publique. Quand on parle de goitre, de nodules ou d'hyperthyroïdie, ce n'est pas comme, par exemple, le diabète où il faut faire des campagnes de dépistage, etc. Mais quand même, il y a de la sensibilisation, de l'information pour de plus en plus que les médecins praticiens, les généralistes ou que les patients, la population même, puissent savoir qu'il y a certains signes qui doivent orienter vers l'existence d'une dysfonction de la glande thyroïde. Et de toute façon aussi, augmentation du volume de la glande thyroïde doit inciter à aller faire...
À aller consulter, oui. Et en termes de traitement, professeur Ley, est-ce qu'ils sont accessibles et de quoi vous disposez?
Nous disposons à peu près de tout ce qui est ressources thérapeutiques à l'international. Je veux dire, nous avons les antithyroïdiens de synthèse, il y a la chirurgie qui se fait, il y a l'iode radioactif au besoin qui se fait. C'est disponible. Cependant, les antithyroïdiens de synthèse sont beaucoup plus accessibles au plan financier. La chirurgie est aussi accessible puisqu'il y a beaucoup de chirurgiens ORL, de chirurgiens assez spécialistes dans ce domaine. Et la chirurgie même peut parfois être un peu moins chère que le traitement médical avec les antithyroïdiens de synthèse. Et depuis un certain nombre d'années, il est possible de faire l'iode radioactif lorsque l'indication d'un traitement par iode radioactif est indiquée dans certains cas.
Certains cas, oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour conclure dans le cadre de la prévention peut-être de ces maladies de la thyroïde?
Il faut sensibiliser, il faut véritablement sensibiliser les médecins généralistes à ne pas passer à côté d'un dosage facile de la TSH pour dépister une dysthyroïdie, d'examiner systématiquement la base du cou, de palper. Dès qu'il y a un relief, il faut suspecter qu'il y a un goitre et l'échographie est accessible. Et puis pour les populations, nous ne cesserons de les sensibiliser sur les signes très multiples et variés qui peuvent être en rapport avec une dysthyroïdie, sans pour autant que la thyroïde ne soit la seule cause. Mais l'essentiel, c'est d'aller consulter très tôt le médecin généraliste pour pouvoir faire la part des choses et ne pas avoir de retard de prise en charge.
Merci, professeur Ley Dominique. Docteur Dominique, je vois que vous voulez réagir au propos.
Je voulais simplement tout à fait confirmer les données de mon collègue pour une expérience personnelle de vécu de l'importance de la... de l'iodification du sel qui a été la mesure de santé publique majeure. Alors personnellement, il y a une quarantaine d'années, j'ai été médecin coopérant à l'hôpital de Kaolack et à l'époque, on voyait tous les jours des goitres multinodulaires, on va dire quasi historiques. Et maintenant que je retourne au Sénégal oriental, on voit que ces goitres ont quasiment disparu. Et ça, c'est grâce aux mesures de santé publique qui ont été d'apporter de l'iode au niveau du sel alimentaire.
Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Ley, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef du service d'endocrinologie diabétologie au Centre hospitalier national universitaire de Pikine, dans la banlieue de Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Docteur Dominique Huette, on vous retrouve pour la dernière partie de notre échange. On a évoqué les différents dysfonctionnements et traitements de la thyroïde. On n'a pas encore parlé du cancer de la thyroïde qui peut prendre plusieurs formes.
Alors, juste avant de parler du cancer, on doit reparler des nodules. Les nodules, donc ces formations de cellules, les adénomes, peuvent avoir comme conséquence d'être le siège d'un éventuel cancer. Alors, les cancers sont
5% d'entre eux, il me semble.
Très peu fréquents, 5%. Ça veut dire qu'on en découvre entre 3 et 4 000 par an. Alors, c'est en légère augmentation. Alors, bien évidemment, on va tordre le cou au Tchernobyl, etc. Ça n'a rien à voir. C'est plus une augmentation du dépistage qui fait qu'on a une petite augmentation. Il faut savoir que les nodules vont être caractérisés très précisément par un examen indispensable qui est l'échographie. Cet examen simple, peu onéreux, va nous renseigner sur l'aspect, que ce soit les contours, la vascularisation, le caractère régulier ou pas. Et en fonction de certains critères qui pourraient paraître suspects, on fera un examen complémentaire qui est une cytoponction à l'aiguille, c'est-à-dire à l'aide d'une toute petite aiguille. Alors les médecins qui les pratiquent, évidemment, vous disent que c'est indolore. Ça l'est peut-être un tout petit peu moins pour les patients. Mais cet examen permet d'être très discriminant et nous dire s'il y a des petites cellules cancéreuses à l'intérieur ou pas. Et comme ça, ça évite d'aller opérer certains nodules qui pouvaient paraître suspects. Et donc, on a diminué considérablement le taux d'intervention pour ces nodules à l'aide de cet examen qui s'appelle la cytoponction. Alors néanmoins, ensuite, si jamais on a une réponse positive avec quelques cellules, je crois qu'il faut d'abord rassurer les gens, parce que c'est un cancer qu'on va guérir dans 97% des cas environ, uniquement à l'aide d'un traitement par la chirurgie, l'ablation de la thyroïde, plus ou moins on complète par une petite application d'iode, mais jamais de chimiothérapie, jamais de radiothérapie, donc il faut rester serein vis-à-vis de ce cancer.
Alors pour conclure, et en deux mots, quels conseils vous pourriez donner en termes de prévention à nos auditeurs ?
Alors premièrement, dans la prévention, on a vu que la prévention, elle était générale, c'était de prendre du sel et du sel qui contient de l'iode, mais maintenant c'est obligatoire en Europe. La deuxième prévention, c'est pour les patients, de demander à se faire vérifier le dosage de la TSH si dans la famille, il y a des antécédents. Et c'est ça le plus important.
Merci beaucoup, docteur Dominique Huette, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chef du service diabétologie-endocrinologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, créateur du centre de la thyroïde à Saint-Joseph, et vous êtes également membre du conseil d'administration de l'association Le CAICEDRA, une ONG au Sénégal oriental. Et tout de suite, la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo. Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Docteur Sen, vous allez nous parler aujourd'hui d'une blessure fréquente que l'on appelle le tennis leg. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit en fait d'une déchirure musculaire. On peut vraiment le décrire, si on voulait décrire ce phénomène, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Voilà, ça serait ça. En fait, cette déchirure, elle est vraiment brutale. La personne, par exemple, est en train de se déplacer. Et puis, elle a l'impression d'avoir reçu une balle, un coup de raquette ou même, pourquoi pas, un coup de fusil dans le mollet. Alors, heureusement, la personne se retourne vers son partenaire si jamais la personne joue en double, par exemple, au tennis. Et heureusement qu'elle peut plus marcher, parce que sinon, elle a l'impression que la personne lui a tiré dessus. Il peut même y avoir un claquement audible qu'on peut entendre, et ça touche généralement les sportifs qui ont plus de 40 ans. Alors, il y a des facteurs de risque à tout cela. C'est la condition physique, évidemment, la prise de certains médicaments qui favorisent une fragilité, notamment certains antibiotiques, le poids important, tout ça favorise ce risque, en fait, de blessure musculaire. Et pourquoi est-ce que ça a été décrit au tennis ? Parce que c'est là où il y en a un peu plus que d'habitude, parce qu'il y a un jeu de jambes un petit peu particulier qui vise à essayer de rattraper évidemment cette balle. Et là, les muscles du mollet travaillent beaucoup lors des reprises d'appui, des démarrages, des arrêts, des pivots. Et c'est donc une source de blessures extrêmement fréquente là, lors du tennis.
Alors, que faire en urgence quand ça arrive ?
Bah d'abord le repos. Hein, il faut essayer de faire d'abord ce qui va de l'arrêt simple, simplement, jusqu'à l'interdiction d'appui sur la jambe atteinte, pour pouvoir éviter d'aggraver, bien sûr, cette lésion. La deuxième chose, ça va être d'essayer de limiter l'hématome. Alors pour ça, on va essayer de comprimer avec un bandage modérément serré, hein, pas trop serré pour permettre quand même le retour veineux, et puis surélever la jambe par rapport au thorax, c'est-à-dire bah, mettre la jambe sur un tabouret ou un petit peu plus haut pour pas vraiment que le sang stagne finalement vers la jambe. Il faut pas hésiter à glacer ou à mettre une poche de glace tout simplement en protégeant la peau pour pas brûler la peau. Ça sera une chose qui sera importante. Et puis bien sûr, consulter un médecin pour pouvoir faire un diagnostic important et puis déterminer bien sûr l'importance de cette déchirure musculaire.
Et alors dans ce cas-là, quel est le traitement ?
Bah le traitement numéro un, c'est d'empêcher l'hématome de se former, hein, parce que c'est ça qui va permettre de récupérer plus rapidement et d'éviter d'avoir des séquelles, des cicatrices séquellaires sur ce muscle. Et là, l'utilisation, donc comme on le disait, d'une bande de contention va être importante, qui va des orteils jusqu'aux genoux. Ensuite paradoxalement, il faudra reprendre la marche le plus précocement possible, c'est-à-dire que tout en respectant la douleur. Donc ne pas hésiter à être accompagné d'un kinésithérapeute pour ça, pour faire fonctionner comme ça le triceps, hein, c'est-à-dire le muscle du mollet, qui comme ça, en se contractant petit à petit, eh bien, va aider à la cicatrisation. Si c'est vraiment trop dur au début, on pourra pendant quelques jours prendre des cannes anglaises, et puis avec le kiné, il y aura aussi de la mobilisation active de la cheville, du genou, qui permettront d'aider aussi à la cicatrisation. Il faut savoir qu'on a un très très gros hématome à l'intérieur du muscle. Le médecin sera chargé de détecter ce gros hématome pour essayer de le retirer, parce qu'il va gêner la cicatrisation, et ça se retire avec une ponction sous contrôle échographique. Mais ça, c'est vraiment le médecin qui sera chargé et qui verra l'opportunité de faire cet examen.
Et quand est-ce qu'on peut reprendre le sport, Jean-Marc ?
En fait, souvent, ça va dépendre bien évidemment de l'importance de la déchirure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la reprise devra être progressive. Progressive et au bout de plusieurs semaines. Hein, on ne peut pas imaginer moins de 3 semaines. Certes, quelquefois, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois quand on a un hématome, justement, qui persiste. Et en tout cas, lorsqu'on fera cette reprise progressive, il ne faudra pas hésiter à faire des sports comme de la natation ou du vélo, ce qui permettra de solliciter plus doucement et plus progressivement le mollet, hein, et pas tout de suite se remettre à la course à pied. Et puis, cette course à pied, en tout cas si on aime ça, ou le tennis par exemple, si on pratique ça, il faudra vraiment le faire que quand on n'aura plus mal dans la vie quotidienne. Hein. Si on a encore mal lorsqu'on marche, il ne faut surtout pas se remettre à faire de la course à pied. Donc en tout cas, voilà Raphaël, j'espère que grâce à ces conseils, nos auditeurs pourront pratiquer leur sport favori avec le plus grand plaisir, tout en gardant le mollet ferme.
Et en prenant soin de sa santé. Merci Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cetous Amaké, Ophélie Lassen, Mostefa Mostefaoui et Didier Bleu à la réalisation. Demain, nous parlerons des phobies, ces peurs démesurées d'une situation, d'un animal ou d'un objet. On vous donne rendez-vous à 9h10 en temps universel et on vous souhaite une bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui protège vos biens, vos proches et votre voisinage comme tout bon locataire ou propriétaire. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.